bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite.
Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle, la suite. On se retrouve après ces deux heures de débat passionné pour 20 minutes de bonus afin de revenir sur ce qui vient de se passer et de vous dévoiler les coulisses de votre émission préférée. Alors on en a parlé pendant deux heures, c'est un sujet qui vous a fait réagir. La richesse, la précarité et le revenu universel. Nos invités ont débattu sans filtre, partagé leurs expériences, leurs doutes, leurs convictions et même leur vision du futur du travail et de la société. Mais attention, il faut qu'on en parle la suite, on va aller encore plus loin. Ne manquez pas les secrets de l'émission, les moments off et tout ce qui n'a pas été dit à l'antenne. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui fonctionne. Je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. Restez avec nous pour prolonger la discussion. Alors, on vous a posé, vous, auditeurs, de nombreuses questions et vous avez été très nombreux à réagir et à participer à nos sondages sur ce sujet. Notre première question était, pensez-vous qu'il est possible d'être riche aujourd'hui uniquement grâce à son travail? Et vous avez été 74% à nous répondre que non. Un chiffre qui en dit long sur la perte de confiance en ce modèle actuel. Alors, cher invité, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne, Clément?
Non, bah, effectivement, ce qu'on voit, c'est que la très grande majorité aujourd'hui des fortunes ou de la richesse est quand même héritée. Et après, oui, évidemment, la question de la définition de la richesse qui va dépendre d'un individu à l'autre. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir collectivement et trouver des indicateurs. On parlait du seuil de richesse et s'interroger un petit peu sur aussi ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre société être riche en termes d'inégalité et quelles mesures on peut prendre aussi pour réussir à vivre dans une société en commun, c'est-à-dire quand les écarts de revenus et de richesses, de patrimoine se creusent de manière énorme comme c'est le cas aujourd'hui,
dans quelle
mesure on
clairement,
vit toujours ouais. dans une société similaire et dans quelle mesure on peut avancer ensemble. Moi, je pense que la société est faite de conflits et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour limiter les écarts de patrimoine, permettre aux personnes d'accéder à leur résidence principale, etc.
Benoît, vous réagir sur ce sondage?
Oui, cette réaction ne m'étonne absolument pas, c'est normal. C'est un petit peu cette dernière phase que l'on voit des progrès technologiques qui amènent énormément de virtuels, ce que l'on ne connaissait pas avant. Alors, c'est un virtuel qui est dû sur la communication, l'information, l'accès aux consommateurs. Et puis, c'est aussi les monnaies numériques, le bitcoin et tout,
et oui.
purement spéculatif.
Tout ce qui est raccord avec notre début d'émission, voilà. les influenceurs, voilà. on a l'impression que ce n'est pas du travail. Bon, après, beaucoup d'influenceurs vont vous dire « oui, je bosse derrière, oui. etc. » Mais il y a cette nouvelle façade, s'enrichir très vite, etc.
C'est ça. Ça, c'est neuf. C'est-à-dire que quand on regarde les deux derniers siècles qu'on a eu, le 19e et le 20e, bah, c'était toujours le travail, quelque part. Et
le travail qui paye.
Des entrepreneurs qui enrichissaient. Voilà, c'est tout. C'est pas autre chose.
Pas étonnant. Antonella, un avis sur le... Ça, c'est pas étonnant non plus? Trois quarts des gens qui pensent ça aujourd'hui? Si, c'est choquant. Trois quarts des gens aujourd'hui pensent que c'est plus le travail finalement qui paye.
Je sais pas répondre, en fait. Ne pas savoir répondre. Je ne sais pas comment réagir à ce chiffre.
Mais on voit qu'on est quand même dans une mutation de la société aujourd'hui.
Comment?
On voit qu'on est dans une mutation de la société et la majorité des gens maintenant pensent ça, que finalement, c'est plus le travail qui fait qu'on devient riche, qu'on gagne de l'argent. Voilà. Non, peut-être sinon Marc ou Henri, je ne sais pas, je vois qu'Henri veut réagir sur le sujet.
Ouais. Bon, sur la question de est-ce que c'est étonnant ou pas, c'est subjectif l'étonnement. Moi, je suis étonné qu'il y ait encore 25% des gens qui croient qu'on peut s'enrichir grâce au travail. Mais chacun place le curseur où il veut. Ce qui est sûr, c'est que les gens le constatent bien et ça commence à se savoir que les inégalités de patrimoine sont encore plus importantes que les inégalités de revenus et celles-là, elles sont essentiellement héritées.
Ah, on en parle tout le temps, on le voit aux infos, on le voit partout, tout le monde le parle, tout le monde le dit maintenant. Oui.
Voilà, et donc ça se voit bien. Et clairement, tout dépend de ce qu'on appelle riche. Tout à l'heure, on a mis une définition à 4000 euros de revenus, mais chacun voit midi à sa porte. Mais quand on voit que quelqu'un peut être milliardaire, voire multimilliardaire, et qu'on fait le calcul de ce que ça représente en siècle de SMIC, on voit bien que pour atteindre ces niveaux de richesse, il faut attendre, c'est pas tellement son propre travail qu'il faut mobiliser, mais c'est le travail de nombreux autres qu'il faut mobiliser pour accumuler autant de richesse. Donc, on devient surtout riche à partir du travail des autres.
Alors, on a posé une deuxième question à nos auditeurs, et là, vous allez voir que c'est un petit peu plus tranché, et ce qui n'est pas étonnant. Seriez-vous favorable à la mise en place d'un revenu universel en France? Et là, 63% seulement des gens ont répondu oui. Beaucoup y voient une solution face à la précarité, d'autres un risque pour l'économie. Comment vous analysiez ces tendances? Est-ce que c'est le signe finalement d'un vrai besoin de changement dans la société? Ou encore, les gens ne sont pas encore rendus compte? Oui, Marc, peut réagir sur...
Oui, alors, je préfère répondre sur la question précédente.
Oui, c'est possible, hein. Vas-y.
Alors, sur la question précédente, sur la question donc, de la richesse, on a une difficulté, je pense, très clairement dans les débats qu'on a dans le public là, par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours une confusion entre être riche ou avoir des hauts revenus.
Être ultra riche, finalement. Même,
oui, c'est ça. Non, mais c'est même pas ultra.
Entre les deux.
En fait, on mélange toujours le stock et le flux. Avoir des hauts revenus, ok, c'est un moyen de devenir riche, peut-être, d'accord. Il y a des gens qui sont riches sans travailler, parce qu'ils ont hérité, parce qu'ils ont gagné un truc, au moment ils ont vendu leur entreprise, ils sont riches, très bien, mais même s'ils n'ont pas de revenus. Bon. Donc les deux questions sont liées, mais pas automatiquement liées, entre la richesse et le niveau des revenus. C'est bien que ça rend un petit peu compliqué, parce que souvent, on emploie un mot pour l'autre. On dit, tiens, quand on est au-dessus de 4000 euros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Clément, ben, on est riche. Ben, pas forcément. Et si ça, on part de zéro.
Et ça dépend du point de vue d'où on se place. Si on demande ça à quelqu'un qui gagne le SMIC, quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui en fonction de l'endroit où on habite, etc. Oui, le terme.
La richesse, c'est le patrimoine. Mmh. Le mot riche, c'est qu'on a un haut patrimoine. Okay, quelqu'un qui vit à la rue, mais qui reçoit 4 000 euros, je prends un truc idiot, bah, il peut se payer l'hôtel, certes. Mais il n'est pas riche. Il a, à un moment donné, des revenus élevés, mais il n'a pas un gros patrimoine. Donc, il n'est pas riche. Voilà, donc, en fait, dans nos débats, on a souvent cette complexité-là. Et le deuxième niveau de complexité, c'est que dans le patrimoine, les patrimoines, il y a deux niveaux de patrimoine. Et le patrimoine de jouissance, on a une belle maison, on est heureux dans sa belle maison, on a une belle bagnole, on est content d'avoir sa belle voiture, d'accord? Ok, ça, c'est la jouissance, un patrimoine de jouissance, très bien. Et ensuite, il y a le patrimoine de puissance. Quand on a pour 1 million d'euros d'actions de je ne sais quoi, quelle entreprise, ok, c'est une puissance économique que l'on a. On ne la mange pas, on n'y habite pas dans ce million d'euros. On n'a pas de jouissance de ce million d'euros. On peut être content de l'avoir. Mais c'est un patrimoine de puissance. Et en fait, dans tous nos débats, on confond les deux, patrimoine de jouissance et patrimoine de puissance. Ce qui fait que, eh ben, on dit, tiens, ben, les gars, ils sont riches, ils ont 1 milliard de patrimoine. Oui, mais c'est un patrimoine de puissance. Ils ne vivent pas dedans. Peut-être qu'ils vivent très chichement, mais ils ont une puissance économique. Ce n'est pas pareil. Et en fait, voilà, donc toutes ces confusions entre haut revenu, richesse, je dirais qu'ils donnent un cadre de vie sympathique, et richesse potentielle par une puissance économique, c'est pas la même chose. Et confondre les trois, eh ben, ça rend les débats assez compliqués.
Du coup, Antonella, sur la question de la mise en place du revenu universel, 63% des gens qui disent oui. Antonella.
Non, en fait, là, c'est en réaction à Marc. Merci beaucoup, Marc, de cette précision, parce que c'est là, justement, le gros problème, c'est la confusion entre les rémunérations très élevées, la richesse monétaire, le patrimoine, et c'est des choses vraiment très différentes. Il faut faire la distinction, puisque par ailleurs, et bien la question du patrimoine, elle est quand même très clivante. Qui détient des patrimoines importants et qu'est-ce que cela représente? Ça, c'est vraiment et que probablement, effectivement, il y a aussi quelque chose qui s'est bloqué dans le transfert, dans l'ascension sociale, en fait, qui s'est bloqué, un processus qui s'est bloqué aussi. Et par ailleurs, il y a aussi le fait que le patrimoine, par exemple, le patrimoine immobilier a été fortement revalorisé. On n'en parle pas assez, mais c'était impressionnant, la revalorisation du patrimoine immobilier, et qui fait un fort clivage entre les pauvres et les riches, en fait. Donc, c'est très important, votre remarque est vraiment très importante, et qui fait qu'effectivement, mais bien sûr, on ne pourra pas, avec la plupart des personnes, ne pourront pas, avec leur travail rémunéré, accéder à une maison de propriété.
C'est de plus en plus dur aujourd'hui, clairement.
Sauf à vouloir relancer la machine infernale qui était celle, justement, de qui était aux États-Unis avec la crise des subprimes, justement, qui était quoi, en fait, on est allé vers des situations d'emploi pauvres, d'emplois discontinus aux États-Unis, et on avait compensé avec le soi-disant aide financière des banques à l'accès au logement. Et on sait bien ce que ça a donné. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisqu'il y a une grande partie de la population qui, avec, par ailleurs, la hausse des loyers, ne peut plus accéder au logement. Hein, donc, donc la question de la pauvreté, c'est pour ça aussi que je disais la question du logement est très importante. La question de la pauvreté, pour moi, c'est déjà le fait d'avoir pouvoir ou ne pas pouvoir avoir accès à un logement, être garanti de pouvoir vivre dans un logement dans lequel on est bien chez soi. Ça, c'est vraiment une condition, me semble, minimale d'une société décente,
Benoît,
démocratique,
du
en
coup.
Fait.
Merci,
oui,
Antonella. Oui.
On revient sur ce sondage, donc si je comprends bien, c'est un sondage en vif, 63% des auditeurs sont favorables à la mise en place du revenu universel, c'est une réaction qui, là encore, ne me surprend pas au vu de ce qui s'est dit. Dans les composantes qu'on a sur le revenu universel, ben, je dirais, il y a d'abord la question de hors marché, on sait que le marché aujourd'hui produit des inégalités complètement folles, donc on a besoin d'introduire du hors marché, et puis ensuite l'égalité. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'égalité absolue de tout le monde, parce que ça, c'est une position intenable, mais il s'agit d'introduire de l'égalité dans notre système économique. D'introduire de l'égalité, je ne sais pas si c'est un minimum.
Un minimum
ou pas,
d'égalité, en fait, on l'a dit, de la naissance à la mort, un revenu minimum.
Voilà, d'égalité. Et toute personne qui serait contre ça est un salaud. Et là où on s'aperçoit qu'il y a les divergences dans les 33%, c'est l'inconditionnalité. Donc, comment on fait ? C'est ça, cette question que je voudrais poser. C'est 63%, c'est nos auditeurs. Et comment on fait pour convaincre sur l'inconditionnalité, les 33% autres, et puis d'une façon générale, très probablement, la majorité de la population française ? Quelle stratégie on adopte ? Quelle pratique on adopte ? Comment on avance ? C'est sur ce point que je voudrais sensibiliser ces auditeurs. Et merci de ce sondage.
Alors, on a fait un autre sondage. Si vous receviez chaque mois un revenu universel de 1200 euros, continueriez-vous à travailler ? Résultat, 58% ont répondu oui. Ils affirment qu'ils garderaient une activité par passion, du besoin d'utilité. Les 42% restants disent qu'ils profiteraient finalement pour changer de vie, se reconvertir ou simplement souffler un peu. Alors, comment vous interpréteriez ces résultats ? On parle de 1200 euros, on parle d'un revenu proche du SMIC au final. Antonella, je vois. Vous réagir ?
Bon, là, j'ai réagi immédiatement. Bon, bah, parce que d'une part, ça confirme complètement ce que j'ai toujours affirmé, qu'un revenu inconditionnel d'existence ne ferait pas que les gens ne travaillent plus, parce que le travail n'est pas simplement une activité pour avoir un revenu. C'est une manière d'être avec les autres, d'être dans la société, et que donc ça, cette chose-là, elle va au-delà de d'avoir un revenu de base permettant d'avoir des conditions décentes d'existence garanties. Et d'autre part, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette réponse, c'est aussi les autres qui disent la possibilité de respirer, c'est parce ça. Qu'il y a effectivement une grande tension aujourd'hui, qu'on peut constater avec le travail d'enquête, on constate véritablement une grande tension sur les lieux de travail, donc pouvoir respirer est important, mais aussi autre chose dans la réponse des gens, c'est de pouvoir développer d'autres activités. Et ça revient exactement à oui. C'est que pourquoi je me bats pour un revenu inconditionnel d'existence, c'est la possibilité de développer d'autres activités, c'est-à-dire des activités dans lesquelles on est en phase avec ce qu'on fait.
C'est-à-dire le fait d'avoir un revenu minimum et permettrait de se dégager du temps pour développer quelque chose, pour avoir une sérénité financière minimum, en fait. On est dans cet état d'esprit.
Et puis, par rapport à Benoît l'inquiétude sur l'inconditionnalité, pour l'instant, en tout cas, le problème majeur du passager clandestin est qu'une grande partie de nos impôts doivent soutenir les entreprises pour maintenir les emplois. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour l'instant, on finance les entreprises pour maintenir des emplois mal rémunérés.
Clément, il nous reste quelques minutes.
Je reprends, je réagis tout de suite à Antonella parce que c'est très...
Rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps.
Fondamental. C'est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie de nos impôts passe dans le soutien à l'emploi, au soutien aux entreprises privées. Et ça, c'est un point qui est problématique et qui est scandaleux. Et c'est vrai que l'intérêt de la sécurité économique et sociale, c'est justement de ne plus faire appel au budget de l'État et créer une solidarité inter-entreprise en faveur de l'emploi et de revenus décents pour toutes et tous. Tout.
Très clair. Clément.
Ouais, donc sur ces deux résultats, ces deux sondages, déjà sur le premier, donc 63% seraient favorables à un revenu universel, une allocation universelle. En fait, la question, c'est vraiment de poser les termes du débat et en fait le flou qui sort. Je pense que sur toutes les personnes qui vous ont répondu, il n'y en a pas deux qui auraient la même vision de cette chose-là. Et la question, c'est quelles conditions réelles seraient possibles aujourd'hui, c'est-à-dire que des personnes intelligentes qui ont travaillé sur le sujet vont être extrêmement polarisées sur les manières de la mettre en place. Si vous mettez dans une même pièce pas Bernard Friot, Marc de Basquiat et Baptiste Milondo, c'est des personnes civilisées, elles vont pouvoir discuter. Par contre, sur les solutions et le projet de société, elles ne vont absolument pas être d'accord. Et là-dessus, la question, c'est vraiment poser les termes, les questionnements. L'inconditionnalité, je pense, est un nœud central et une interrogation dans la société telle qu'elle existe et qu'elle est organisée aujourd'hui. L'universalité également, et potentiellement une solution ou un questionnement qui ferait avancer les débats là-dessus. Ce serait, je ne sais pas, une convention citoyenne sur des réformes de la protection sociale ou sur une forme de revenu de base pour réellement travailler ces différentes choses. Parce qu'on est quand même dans une société politique polarisée, et donc les personnes ne seront pas d'accord. Il y aura des oppositions. Il ne faut pas voir un vernis de consensus là-dessus. On ne sera pas d'accord, il y aura des propositions qui pourront être faites, mais dans tous les cas, les projets sont extrêmement différents. Donc la question est un peu mal posée et biaisée. Sur le deuxième sondage, il y a vraiment des aspirations à la liberté et clairement à s'extraire du cadre extrêmement contraint de l'emploi tel qu'il existe aujourd'hui. Donc d'aspirer à du travail, et beaucoup de gens aujourd'hui travaillent au jour le jour, tout le temps, même des personnes qui sont minima sociaux travaillent au jour le jour. Et la question, c'est des aspirations à la liberté, concilier sécurité et une liberté dans l'organisation de son temps. C'est ça, je pense, l'enjeu principal de cette dimension-là.
Très très clair, Clément. Pour terminer rapidement, du coup, Marc veut intervenir, du coup. Une petite minute alors, pour Marc.
Ok, juste sur ce point-là, en fait, les 1200 euros par mois, c'est sympathique, hein, c'est sympa. Alors, évidemment, la question posée, il n'y avait pas la question du financement. On ne dit pas, ces 1200 euros sont financés par un certain moyen. Donc, concrètement, pour vraiment les choses, ça veut dire, 1200 euros, ça veut dire que les rémunérations seraient beaucoup plus ponctionnées qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les rémunérations seraient divisées par deux, dans deux en l'heure,
pour un peu un repère. Pour financer ça.
Voilà. Mm-hmm. Voilà, pour financer ça. C'est-à-dire que là, on vous donne 1200 euros, mais par contre, votre rémunération va être coupée en deux. Et vous êtes toujours d'accord. Et là, la réponse sera probablement un peu différente des 58% que vous avez obtenu là. Et les chances.
Possible. Et puis effectivement, ce qu'on n'a pas, c'est on n'a pas à demander le niveau de revenu des gens, puisque pour certains, 1200 euros peuvent très bien suffire, et peut-être que dans les 42%, ces 42% qui justement voudraient faire quelque chose avec, se libérer du temps, peut-être que d'autres n'ont pas pu répondre ça, parce que 1200 euros, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins classiques, on va dire. Effectivement, eh bien... voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Faut qu'on en parle la suite. Alors du coup,
il nous reste moins de 2 minutes, l'occasion pour nous de vous donner notre ressenti et vous dévoiler les coulisses de cette émission. Alors Luc, pourquoi avoir choisi ce thème? Comment nous est venue l'idée de parler d'argent, de richesse, mais surtout de revenus universels?
Eh bien tout simplement hein, parce que c'est un sujet qui nous touche finalement tous, on en a parlé pendant l'émission, qui pourrait nous toucher tous de la naissance au décès. On parle d'un monde où tout va vite, où la réussite financière est souvent synonyme de valeur sociale et où pourtant de plus en plus de gens peinent à s'en sortir. On voulait aller au-delà des clichés, au-delà des discours politiques et poser les vraies questions. Peut-on encore vivre dignement aujourd'hui de son travail? Et si le revenu universel changerait vraiment les règles du jeu?
Oui, et puis on voulait aussi donner la parole à ceux qu'on entend peu, vous, les citoyens, les entrepreneurs, les étudiants, les gens du quotidien qui vivent concrètement les inégalités, les doutes et les espoirs. Donc merci à vous d'avoir réagi. Parce que oui, derrière ces chiffres, il y a des vies, des histoires et des réalités surtout.
Oui, et comme toujours, notre objectif, c'est de vous faire réfléchir, de vous donner le sourire, mais aussi de vous apporter des clés. Peut-être qu'avec cette émission, cela vous a donné envie de repenser votre rapport à l'argent ou simplement de croire qu'un autre modèle est finalement possible.
Alors si ce soir, on a pu vous aider à y voir clair, si on a pu vous inspirer ou simplement vous faire poser des questions, alors notre émission est réussie. C'était Faut qu'on en parle la suite, on espère que cette émission vous a plu. Merci à tous nos invités. Merci à vous, auditeurs, pour vos réactions et vos messages. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête, un nouveau débat et toujours autant de passion. À très vite et surtout, ne cessez jamais de réfléchir, de débattre et de rêver. C'était Faut qu'on en parle la suite. Bye bye.